Bien, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à l'Église baptiste et évangélique de Saint-Léonard. Donc, je m'appelle Mario Brochu. Je ne suis pas un des pasteurs de l'Église, pour ceux qui nous visitent la première fois. Donc, je vous souhaite la bienvenue à notre assemblée. Mais je fais partie du comité de cette Église. Et c'est souvent quand les pasteurs sont en vacances qu'ils nous demandent d'apporter la parole de Dieu. Et c'est ce que Emmanuel a commencé à faire la semaine passée. Donc, on a une courte série estivale, comme on peut dire, dans les paraboles. Donc, Emmanuel nous a parlé de la parabole des 10 vierges la semaine dernière. Et moi, je vais poursuivre aujourd'hui avec une parabole où le thème, il y a trois paraboles, c'est le ciel et l'enfer. Donc, parler du ciel, c'est agréable, c'est plaisant. Mais parler de l'enfer, ce n'est pas nécessairement un sujet qu'on aborde de premier plan avec nos amis, nos membres de famille, mais c'est quand même un sujet qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est une vérité spirituelle que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée. Et d'ailleurs, C.S. Lewis, que plusieurs connaissent comme auteur ici, comme écrivain, a écrit au sujet de l'enfer qu'il n'y a aucune autre doctrine que j'ôterais de la foi chrétienne avec plus de volonté que celle-là si j'en avais le pouvoir. Donc, même C.S. Lewis aimerait ne pas aborder cette doctrine de l'enfer. Puis, dans un sens, la majorité des chrétiens seraient possiblement d'accord avec lui. Hein? Ce n'est pas un thème qu'on aime aborder, et même juste penser à l'idée de l'enfer. Ce n'est pas nécessairement un élément de la foi chrétienne qu'on aime aborder. Hein? Même le fait de penser que ceux qui ne sont pas en Christ vont passer l'éternité en enfer devrait aussi nous briser le cœur. Donc, tout ça, surtout quand c'est les membres proches de notre famille. Hein? Certaines personnes essaient d'éviter de penser à l'enfer. Donc, ils peuvent avoir toutes sortes d'excuses. Je ne veux pas me mettre les gens à dos, je ne veux pas être alarmiste, je ne veux pas décourager les gens. Ou d'autres vont dire que c'était le Dieu de l'Ancien Testament qui en parlait. Ce n'est pas d'actualité, ce n'est pas dans la Nouvelle Alliance. Pourtant, si on prend le temps de lire les Évangiles, on découvre que Jésus est le personnage de la Bible qui parle le plus de l'enfer, dans toute la parole de Dieu. Et même si on compte les versets, c'est un commentaire qui a dit ça, je n'ai pas pris le temps de compter les versets. Mais on dit que Jésus a plus parlé de l'enfer que du paradis dans sa parole. Entre autres, il a parlé du ciel et de l'enfer dans les trois paraboles qu'on va voir ce matin. Donc, des paraboles quand même relativement connues. Donc, il y a la parabole de l'ivraie, la parabole du filet de poisson et la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Prions. Oui, merci Seigneur pour ta parole. Merci de ton enseignement que tu nous dictes à travers elle. Des enseignements parfois qu'on aimerait omettre de lire dans nos lectures. Ce n'est pas toujours évident la doctrine de l'enfer, mais elle est présente. Tu nous avertis, Seigneur, par cet enseignement, à travers ces trois paraboles. Oui, ouvre nos cœurs à ce message, à cette prédication, puisqu'en faire en sorte qu'on puisse la méditer. Envoie-moi ton Esprit Saint pour prêcher cette parole, ce sujet quand même délicat. Fais en sorte que je puisse dire les bons mots, les bonnes paroles. Sois avec moi par ton Esprit Saint. Et tout cela au beau nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu. Au chapitre 13, on va lire dans le fond la parabole de l'ivraie comme telle, et tout de suite après, on va poursuivre avec l'explication que Jésus donne à ses disciples sur la signification de cette parabole. Donc, regardons la parabole de l'ivraie dans Matthieu 13, versets 24 à 30 et 36 à 43. Donc, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en germe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. » Voici la parabole de l'ivraie. Et si on va un petit peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 36, voici l'explication que Jésus donne à ses disciples. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Jésus répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arracha l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. » Amen. Donc, on voit que c'est une parabole sur laquelle Jésus met de l'emphase, parce que celui qui a des oreilles entende. Donc, ils veulent vraiment mettre l'accent sur l'importance de son enseignement à travers cette parabole. Emmanuel a fait une introduction la semaine dernière sur en quoi consistaient les paraboles. Et entre autres, il disait que Jésus utilisait ce style de communication, ce style de langage pour expliquer les mystères du royaume de Dieu. Donc souvent, il prend une histoire de la vie prise de la vie quotidienne des gens pour énoncer une vérité spirituelle. Donc, dans ce cas-ci, il va utiliser l'image des cultivateurs qui sèment dans leur champ. On voit aussi clairement que Jésus veut annoncer un mystère, révèle un élément de son royaume. Parce qu'il introduit au verset dans Matthieu 13, 24, il introduit cette parabole par « Le royaume des cieux est semblable à ». Donc, on voit sur quoi va porter son enseignement à travers cette parabole. Donc, il va parler comme tel de la royauté de Dieu. Puis qu'on voit aussi dans cette parabole qu'il y a deux phases distinctes par rapport à son royaume. Donc, il y a celle qui se déroule au présent et celle qui se déroulera dans le futur. Donc, dans le royaume présent, ce qui ressort vraiment de cet enseignement, c'est que l'activité rédemptrice de Dieu n'est que partielle. Et le bien et le mal coexistent. Tandis que dans la deuxième partie, vers la fin de la parabole de l'ivraie, Jésus fait référence au futur, au temps de la moisson. Et là, le mal sera entièrement éradiqué et la royauté de Dieu prévaudra totalement. On va reprendre les passages plus en détail de cette parabole de l'ivraie. Donc, on voit que Jésus mentionne deux types de semences dans sa parabole et il les explique. Il n'y a même pas d'interprétation à apporter. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il prend même le temps d'expliquer la signification de celle-ci. Donc, au verset 24, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Donc, il aborde ici le volet de la bonne semence. Et il explique que l'homme qui semait la bonne semence dans son champ, c'est le Fils de l'homme. C'est Jésus-Christ lui-même. Donc, on ne peut pas interpréter autre chose que oui, c'est Jésus-Christ qui est l'homme qui sème. Jésus explique aussi, c'est qui le champ? C'est le monde. Donc, le champ, c'est le monde entier. Certains commentateurs bibliques parlent de l'Église, mais pourtant, Jésus dit clairement dans sa parole que c'est le monde, son champ, et non pas juste l'Église. Qu'est-ce la bonne semence? Le Seigneur l'explique ainsi, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ici, c'est une image de tous ceux qui l'ont reçu dans leur cœur. Ce sont les fils du royaume. Ce sont donc les croyants qui font partie du blé, comme si on utilise l'image des cultivateurs. Ce sont eux que le Seigneur met dans son champ. Les fils du royaume lui appartiennent et il les envoie dans le monde. Malheureusement, pendant que les hommes dormaient, au verset 25, son ennemi vint et il sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Donc, on aborde ici, dans cet enseignement, le deuxième type de semence. Donc, Jésus a un ennemi, il l'explique lui-même, c'est le diable. Et il se sert du manque de vigilance des hommes pour faire le mal. Et il se sert ici d'une image, d'une mauvaise herbe, l'ivraie. Donc, je ne suis pas cultivateur moi-même, donc j'ai regardé qu'est-ce qui distingue un peu le blé de l'ivraie. Donc, on mentionne que l'ivraie, c'est une plante de la famille des graminées qui ressemble beaucoup au blé dans les premiers stades de sa croissance. Donc, on ne peut pas les distinguer quand ils sont de jeunes plants. Le grain de l'ivraie est amer et mélangé au blé, il peut causer des malaises graves et même des empoisonnements. Donc, ce n'est qu'au moment de la moisson, dans le fond, quand les plants sont à maturité, qu'on peut vraiment distinguer le blé de l'ivraie. On dit que les grains de l'ivraie sont plus foncés, presque noirâtres, alors que ceux du blé sont blanchâtres. Donc, par la couleur des grains, on peut aisément les distinguer lorsque les plantes sont en épi. Et on dit que c'est une des plaies des cultivateurs du Moyen-Orient, parce que les racines de ces deux plantes sont généralement imbriquées les unes à travers les autres. Donc, il est très difficile de séparer le bon grain de l'ivraie avant qu'il ne devienne à maturité. On comprend donc pourquoi Jésus, dans sa parabole, mentionne que cette action doit se faire qu'à l'approche de la moisson, au moment où on pourra bien différencier le blé de l'ivraie. Et d'ailleurs, au verset 26 à 28, il le dit, « Et lorsque la tige monta et produisit du fruit, donc de différentes couleurs, hein, comme on vient de le dire, l'ivraie aussi parut. Et les serviteurs du maître de la maison s'approchant lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé la bonne semence dans ton champ? D'où vient-il le fait qu'il y a de l'ivraie? » Et il leur dit, « Un ennemi a fait cela. » Un ennemi qui rôde. On dit que non seulement la mauvaise herbe ou l'ivraie apparaît avec le blé, mais elle devient aussi l'élément prépondérant dans le champ. C'est ce qui domine dans le champ. D'ailleurs, les disciples avaient compris cette nuance parce qu'ils l'ont appelé, ils disent, explique-nous la parabole de l'ivraie des champs. Ils n'ont pas dit « Explique-nous la parabole du blé ». Donc, ils ont vraiment pris conscience que l'élément prépondérant dans le champ, c'est l'ivraie, et l'élément prépondérant dans le monde, c'est les fils du malin, ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Oui, dans le monde présent, aujourd'hui encore, Satan travaille à calomnier la personne de Christ et sa parole. Et Satan est le père du mensonge. Dans Jean 8, 44, c'est écrit, « Vous avez pour père le diable », en parlant des fils du malin, en parlant de l'ivraie. Et cette mauvaise herbe veut accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et c'est par ces mensonges que Satan réussit à séduire toute la terre, ou la majorité. Heureusement qu'il y a son peuple. Donc, au vu de cette coexistence du bien et du mal, même aujourd'hui, hein, je pense qu'il ne faut pas juste à écouter les nouvelles, et on voit cette coexistence du bien et du mal dans le monde présent. Comment devrait-on réagir face à la présence du mal autour de nous? C'est aussi la question qui préoccupait les fils du royaume, parce qu'on voit au verset 28 à 30, et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu donc que nous allions et que nous les cueillions ?» en parlant de l'ivraie. Et il dit, « Non, faites pas ça. » Un avertissement. « De peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Donc, laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. » C'est une vérité spirituelle que le Seigneur Jésus nous enseigne, que effectivement, les fils du malin et les fils du royaume croissent et accomplissent ensemble des activités dans le monde présent. Ils vivent côte à côte aujourd'hui, sur le même terrain, dans le même champ, à l'école pour les enfants les plus jeunes, dans votre travail, dans votre voisinage. Effectivement, les fils du malin et les fils du royaume se côtoient et sont en relation ensemble. Et même, je sais qu'Emmanuel en a parlé beaucoup avec la parabole des 10 vierges la semaine dernière, Satan a mis ses enfants, ses fils du malin, là où les enfants de Dieu sont assemblés, dans son Église. Ce n'est pas juste dans le monde, sauf l'Église. Donc, Jésus n'a pas mentionné ça dans sa parabole. Hein? Malheureusement, le terrain où croît le blé devient aussi le théâtre de l'activité des fils du malin, d'où l'importance d'être vigilant. Avec le temps même, avec les relations qui s'établissent, nos racines peuvent s'entrelacer et c'est impossible de percevoir qui fait partie du bon, qui fait partie des mauvais. C'est pourquoi, entre autres, le maître dit à ses serviteurs, « Pour le moment, laissez-les croître ensemble. Car en enlevant l'ivraie, vous risquez de déraciner le blé. L'ivraie sera éliminée lors de la moisson. » Donc, aujourd'hui, dans notre vie si complexe, hein, comme je disais, le mal et le bien sont inextricablement reliés. Et il n'est pas facile de les distinguer. Hein? On peut prendre des exemples d'actualité où on aimerait bien, dans notre désir de bien faire, éliminer tous les dictateurs qui font fi de la démocratie et de la liberté. Ou on voudrait même se débarrasser dans notre société des délinquants de tout ordre. Mais qui sont les dictateurs? Qui sont les délinquants? On voit vite à quelle dérive on pourrait jouer à essayer de se faire justice. Et d'ailleurs, l'histoire de l'Église nous montre que ça s'est déjà passé. Qu'on parle au 4e siècle de l'empereur romain Constantin, qui a sorti l'épée pour tuer tous ceux qui ne se soumettaient pas à sa fausse doctrine du christianisme. Il est devenu juge et justicier. Mais en détruisant ainsi le mauvais, ou ce qu'on peut estimer de mauvais pour nous, il y a des forts risques qu'on détruise aussi ce qui est bon. Donc, un enseignement qu'on peut retenir de cette parabole, c'est qu'on doit accepter qu'il y a une coexistence du bien avec le mal dans le monde présent. On a une promesse, c'est jusqu'au temps de la moisson. Qu'on se mette nos énergies à combattre le mal, que de sur quoi on ne distingue pas réellement, n'est pas notre première tâche. Jésus ne nous enseigne pas à combattre le mal et à se débarrasser des gens qui de livraient comme tels. Aussi, comme chrétien, est-ce qu'on a les qualifications nécessaires pour distinguer infailliblement les vrais chrétiens des faux croyants? Je ne connais pas nécessairement le cœur de Serge ou de Benjamin. Donc, effectivement, on a tous nos jardins secrets, mais ce jardin secret ne l'est pas pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on n'est pas vraiment placé pour juger qui est un bon chrétien de qui est un non-chrétien ou un mauvais chrétien. Donc, Jésus nous parle beaucoup dans sa parole de mettre l'emphase sur le bien, de susciter et de développer le bien autour de nous. Aussi, il faut se rappeler que malgré cette coexistence réelle du bien et du mal dans le monde présent, Dieu n'est pas dépassé par le mal. Il est au contrôle. Il sait que le mal est là et qu'il rend des fois notre vie pénible et difficile. Mais il nous accompagne pour que nous soyons le bon grain parmi les vrais. Aussi, il faut se rappeler, et on a tendance à oublier, parce que des fois, on ne regarde pas notre paille dans notre œil, on a une poutre dans notre œil et on a plus tendance à regarder la paille de notre voisin. Mais il faut se rappeler qu'également, vous avez tous été délivrés avant que vous mettiez votre confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, vous êtes devenus du blé. Rappelons-nous que Dieu est, selon le psaume 103, 8, Dieu est miséricordieux, plein de grâce, lent à la colère et d'une grande bonté. À cause des justes, il tarde à juger les impies. Dans 1 Timothée 2, 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi qu'on doit estimer que sa patience avec le monde est notre salut. Dans 2 Pierre 3, 15. Dieu ne s'occupe pas aujourd'hui du jugement. Il agit en grâce. Il appelle tous les fils du malin, tous ceux qui ne croient pas en son nom, à délaisser les ténèbres pour aller dans sa merveilleuse lumière. Une chance que les serviteurs ne sont pas passés pour vous juger avant que vous acceptiez le Seigneur Jésus-Christ. On ne sait pas qui répondra à son appel et quand. Donc ça, c'est la première phase de la parabole, la première étape où il parle du royaume sur terre, le royaume présent. À la fin de la parabole, Jésus va aborder la seconde phase de son royaume, qui, lui, se produira dans le futur, au temps de la moisson, hein, comme il le mentionnait au verset 30. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, mais assemblez le blé dans mon grenier. Et le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils cueilleront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grinchements de dents. Donc, on voit ici qu'il y a deux seules issues possibles au temps de la moisson. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, seulement deux. La fournaise ardente, ou l'enfer, qui est caractérisé par les pleurs et les grinchements de dents. Et il y a le grenier, si on prend l'image de cette parabole, où sera entreposé le blé qui représente le ciel. Et le Seigneur Jésus, au temps opportun, va envoyer les anges pour exercer le jugement duquel personne n'échappera. Donc, le temps de la moisson sera malheureusement une époque tragique pour plusieurs personnes. C'est malheureux à dire. Et c'est pour ça, souvent, qu'on peut éviter le sujet de l'enfer. Qui, justement, seront enlevés du royaume de Dieu au jour du jugement dernier? Le Seigneur Jésus répond dans cette parabole. Ce sont les scandales et ceux qui font l'iniquité. Les scandales, c'est les fils du malin qui œuvrent contre Dieu. Et ceux qui commettent l'iniquité sont les personnes qui désobéissent à la parole de Dieu. Et ce, même parmi ceux qui se réclament de Christ, mais dont le jugement divin les écartera du royaume. Car Satan a semé l'ivraie parmi le bleu, et c'est seulement les anges qui pourront les identifier au temps de la moisson. Les anges à qui le Seigneur Jésus a délégué cette tâche. Aussi, il y a d'autres images de la fin du monde que nous donne l'Évangile qui nous laissent supposer qu'on pourrait avoir des surprises de qui va être au ciel ou de qui ne le sera pas au ciel. Dans Matthieu 20, 31, il marque « Voilà que les collecteurs de taxes et les prostituées nous devanceront dans le royaume, dira Jésus. » Donc le royaume, s'ils font un mouvement de foi, est ouvert à tous, même aux collecteurs de taxes qui sont très impopulaires, même aujourd'hui, et les prostituées. Donc, comme leçon, on doit laisser le Fils de l'homme et les anges séparer le bon grain de l'ivraie au moment opportun. Cette tâche ne nous appartient pas en tant qu'Église. Il y a une belle promesse au dernier verset de cette parabole, au verset 13, 43, dans Matthieu 13, 43. « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Il fait beaucoup soleil dans ce temps-là, hein? Donc on le voit, il resplendit beaucoup. Mais on voit aussi une expression particulière, hein? Le royaume de leur Père. Donc c'est sûr que quand on parle du royaume du Père, on fait référence immédiatement au futur, au royaume futur, ou la partie céleste de ce royaume. Et les justes, ce sont manifestement ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, qui est devenu leur sauveur et Seigneur. Ce sont les fils du royaume qui ont été assemblés dans le grenier céleste, le blé. En font partie seulement les croyants, et c'est pourquoi il est dit qu'ils resplendiront comme le soleil dans le royaume. C'est vraiment une bonne nouvelle. C'est incroyablement grand, et on voit là le triomphe visible et décisif de Dieu sur tout le mal. C'est sûr qu'on voit, des fois on peut se questionner pourquoi qu'il permet le mal aujourd'hui dans le temps présent. Pendant beaucoup d'années, on se questionne même si Satan contrôle ce monde sur terre. Et que toute cette méchanceté, ces infamies contre Dieu restent impunies. Mais, à la fin du monde, le triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra dans toute sa gloire, dans toutes ses puissances, et ça sur toutes les dominations du malin. La justice et l'amour de Dieu trouveront alors leur pleine satisfaction. Les justes resplendiront dans ce royaume. Quel privilège infini d'avoir Dieu pour Père et non le diable. On va poursuivre dans la deuxième parabole, qui est la parabole du filet de poisson. Donc, on reste dans le Matthieu 13, versets 47 à 50. Donc, Matthieu 13, versets 47 à 50, où Jésus va donner une autre image de ce qu'est le royaume des cieux. en utilisant plus la pêche comme illustration. Donc, verset 47, 13-47. « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc, on voit que c'est une parabole qui ressemble beaucoup dans sa structure et son langage à la parabole de l'ivraie. C'est juste qu'au lieu de prendre les plantes, il utilise plus l'image des poissons. Mais si Jésus répète une parabole similaire à l'ivraie, c'est parce que c'est important. Il y a un message important à nous transmettre. Et c'est le thème du jugement à la fin du monde, qui est principalement repris ici, dans cette parabole. Dans les deux paraboles, il est question de bons et de méchants. Et dans les deux paraboles, on parle du jugement à la fin du monde. Donc, si on reprend un peu le texte, donc Jésus enseigne que le royaume de Dieu ressemble à un filet qu'un pêcheur a jeté dans la mer. Et ce filet lui permet d'attraper des poissons de toutes sortes. Donc, on mentionne que ce filet dont il est question, c'est une seine. Donc, c'est un filet qu'on dit qu'il y a 2 mètres de hauteur et qui pouvait s'étaler sur plusieurs centaines de mètres de longueur. Je ne suis pas pêcheur, mais dans le fond, on pouvait attraper beaucoup plus de poissons qu'une ligne à pêche ordinaire. Et la partie supérieure du filet est maintenue à la surface par des flotteurs. Donc, ceux qui vont à l'océan, à la mer, on voit souvent des flotteurs là, qui émergent de l'océan. Donc, c'est souvent des filets qui sont attachés à ces flotteurs et dont la bordure inférieure, étant munie de plomb, sont tirés vers le fond de la mer. Donc, ce filet était conçu pour se déployer sur une grande étendue d'eau à la fois. Et finalement, une fois que le filet était rempli, donc on le retirait sur le rivage et on faisait finalement un triage des bons et des mauvais poissons. Donc, dans le fond, les pêcheurs gardent juste ce qui a une valeur commerciale, les bons poissons, et tout le reste était rejeté à la mer. Donc, je pense que c'est une pratique qui est encore exercée aujourd'hui, de soit les trop petits poissons qui ne sont pas mûrs, matures, ou les mauvais poissons sont rejetés à la mer. Seuls les bons sont conservés. Ici, il y a quand même une distinction avec la parabole de l'ivraie. C'est que ce sont des pêcheurs qui sont au travail et non le Fils de l'homme. Donc, c'est non Jésus-Christ. Il y a plusieurs interprétations à cette. Jésus n'a pas malheureusement fait une interprétation comme il l'a fait pour la parabole de l'ivraie. Mais celle qui ressort de plus des commentateurs, c'est que les pêcheurs, ce sont les serviteurs du Seigneur, les croyants, les chrétiens qui ont mis leur foi à notre Seigneur Jésus-Christ, et ils jettent le filet de l'Évangile dans la mer des nations, afin de gagner des âmes pour le Seigneur. Donc, le filet devient, c'est comme un petit peu, les pêcheurs, c'est comme des évangélistes qui annoncent la bonne nouvelle. Et le filet, c'est la bonne nouvelle, qui s'adresse à toutes les classes d'hommes, à toutes les races, toutes les nationalités, toutes les conditions sociales. C'est adressé. Comme le filet pêche toutes sortes de poissons, donc on souhaite annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes, peu importe leur condition. Comme dans les paraboles livrées, on voit qu'il y a 2 périodes distinctes dans la parabole du filet de poisson. Donc, il y a la période de la pêche, qui est suivie d'un triage. Donc, actuellement, on pourrait dire qu'on vit au temps de la pêche. Ou, par la proclamation de l'Évangile, tel un filet jeté dans la mer, va rassembler les hommes, les fils du royaume, dans son royaume. Excusez, je me répète un peu. Mais on se rapproche de la fin des temps, de la fin du monde. Hein? On ne sait pas quand, seul le Seigneur, même c'est seul Dieu qui sait la date et l'heure de la fin du monde. Mais il mentionne que lorsque l'Évangile aurait été proclamé à toutes les créatures, dans le fond, le filet va être tiré et le triage de son contenu va commencer. Donc, c'est le futur. Donc, on parlait du temps de la moisson. Et maintenant, on parle plus du triage. Selon les commentaires de John MacArthur, que vous connaissez probablement, la parole de Dieu renferme plusieurs vérités fondamentales au sujet de l'enfer. Ainsi, l'enfer, c'est un lieu de misère. Je pense qu'il n'y a personne qui va contester cette vérité, de douleur et de tourments constants. Ce n'est pas des tourments ponctuels, c'est constant. Et sont souvent décrits ces derniers tourments comme un feu qui ne s'éteindra jamais et duquel les condamnés ne seront jamais soulagés, d'où les pleurs et les grincements de dents. En enfer, les gens n'auront aucun espoir. Et ce qui est malheureux, c'est que leurs tourments dureront à jamais pour l'éternité. Donc, si on regarde un peu l'enseignement, les vérités spirituelles de ces deux paraboles, de l'ivraie et du filet de poisson, on va en regroupant les mots-clés, on voit qu'il y a un champ missionnaire, qu'on pourrait dire. Donc, un champ et un filet. Il y a la coexistence du bien et du mal, en parlant du blé et de l'ivraie, et les bons et les mauvais poissons. D'abord, côte à côte, ensemble. Ensemble dans le champ du cultivateur, ensemble dans la mer. Mais ensuite, séparés, dans les deux cas, à la fin du monde. Et les anges, dans les deux cas, dans les deux paraboles, sont les exécuteurs du jugement. L'ivraie et le mauvais poisson seront jetés dans la fournaise de feu, où sont les pleurs et les grincements de dents. Et dans les deux, le sort final des bons aussi est expliqué, que ce soit le blé et le bon poisson, qui seront placés dans des greniers et des vases, représentant ainsi le ciel. Il nous reste une parabole à regarder. C'est la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. C'est dans Luc, l'Évangile de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Donc, l'Évangile de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Donc, la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Donc, c'est une histoire quand même qui donne une autre vision, une autre vérité spirituelle de ce qu'est l'enfer. Et je vous avoue qu'il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient que cette parabole ne soit pas dans la parole de Dieu. Parce que la vérité essentielle qui ressort de celle-ci, c'est que l'homme, créé à l'image de Dieu, a une destinée éternelle. C'est soit le malheur éternel ou le bonheur éternel. Telle est la redoutable alternative devant laquelle chacun de nous est placé. J'ai lu dans un des commentaires que mais quelqu'un pourrait exprimer puis dire, ben ce texte, c'est juste une image. C'est une illustration. Mais si oui, c'est une image qui est très inquiétante. Mais la réalité l'est encore plus. Voir l'image dans un livre d'un lion en liberté, ça ne nous fait pas réellement peur. Mais rencontrer un vrai lion en liberté au détour d'un sentier de la brousse, c'est une autre histoire. Comme dans les deux autres paraboles, il y a deux actes aussi dans la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Donc, le premier acte donne un portrait ici de la vie sur terre, d'une personne riche et d'une personne pauvre. Tandis que le deuxième acte de la parabole se déroule de l'autre côté de la tombe, une fois qu'on est mort. Et cet acte va se dérouler soit au paradis, soit en enfer. Regardons dans un premier temps le premier acte, ici sur la terre. Et on voit qu'il y a un grand contraste entre les deux personnages de cette parabole, entre le pauvre et le riche. Une des premières différences se situe au niveau de leur habillement. Donc, on voit que l'homme riche était élégamment vêtu de pourpre et de fin lin. On dit que la teinture de pourpre provenait d'une substance extraite d'un coquillage et dont le coût de production rendait inabordables les vêtements de cette couleur. Seuls les plus riches pouvaient s'en payer. Donc, c'est pourquoi on associe souvent le pourpre à la royauté. Le fin lin aussi, c'est un article de luxe, fabriqué à partir d'une étoffe précieuse. Cette tunique était particulièrement appréciée pour sa blancheur et sa douceur. Que ce soit avec l'habit du dessus ou le vêtement de dessous, tout dans sa tenue vestimentaire arborait l'opulence du riche. Par contraste, on ne parle pas du vêtement de Lazare, du pauvre Lazare dans le texte. On mentionne simplement que son corps était couvert d'ulcères et que même les chiens venaient les lécher. Donc, on peut sous-entendre par ce texte qu'il ne devait pas vraiment être vêtu de beaucoup pour que les chiens aient accès aux plaies et que ces plaies aussi n'étaient pas bandées. Donc, il n'y avait pas un pansement pour traiter ses plaies. Il y a aussi une différence, première différence dans l'habillement. Deuxième différence quant à la nourriture. On dit que la table du riche était bien garnie de mets les plus délicats, donc il se régalait quotidiennement. Tandis que le pauvre Lazare, dans le texte, mentionne qu'il se contenterait des miettes. Donc, il n'y avait presque rien pour remplir son ventre. Et finalement, un dernier contraste entre le pauvre et le riche dans cette parabole a trait à leur domicile. On parle d'un portail pour le riche. Le portail, c'est la porte d'entrée dans les grandes maisons qui conduisaient à la cour intérieure. Donc, ce détail, dans le fond, dans la parabole, nous permet que le riche devait vivre dans une résidence très cossue. Tandis que Lazare, de son côté, gisait devant ce portail. Donc, possiblement qu'il n'y avait aucun endroit pour se loger, tellement il était pauvre. Sûrement aussi qu'il y avait un handicap physique, ce n'est pas mentionné, mais sûrement qu'il y avait un handicap physique qui le rendait peu mobile, au point qu'il ne pouvait pas se sauver des chiens qui venaient lécher ses plaies. Hein. Et souvent, même si ce n'est pas dit explicitement dans le texte, Lazare était peut-être un mendiant aussi. Donc, c'est sûr qu'à l'époque, à cette époque, il n'y avait pas de sécurité sociale, comme on a ici au Canada. Et la mendicité faisait partie du portrait quotidien de cette société. Donc, il était courant qu'on dépose une personne handicapée devant un portail de riche, devant une maison de riche, dans le fond, un endroit qui pouvait être favorable aux aumônes. Donc, c'est possiblement ce qu'on avait fait avec le pauvre Lazare. Donc, on voit que leur condition de vie est vraiment à l'opposé l'un de l'autre par rapport à leur condition de vie sur Terre. Mais la suite de la parabole nous amène dans un autre monde. Jésus dépeint alors une scène saisissante, le renversement complet du sort de chacun après leur mort. Dans Hébreux 9, 27, il est écrit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement. C'est ce jugement que l'on observe dans la suite de cette parabole, le jugement de Dieu. L'homme riche, probablement, fut enterré avec grande pompe. Encore, l'histoire ne le dit pas, mais il y avait probablement des joueurs de flûte, des pleureuses, des amis, tous devaient y être. Probablement qu'il y avait plein de paroles élogieuses qui ont dû être entendues durant ses funérailles. Hein? Mais rien de tout cela ne pouvait laisser présager le sort qui l'attendait, de l'autre côté de la tombe. D'où sa possible surprise quand l'âme du pauvre, du mauvais riche se retrouva dans le séjour des morts. C'est ce qui est mentionné. Il se retrouva dans le séjour des morts, en enfer. Pourquoi que le riche pouvait être surpris peut-être de se retrouver là, et même plusieurs personnes vont être surpris peut-être de pouvoir se retrouver en enfer. Mais entre autres, les Juifs considéraient que les richesses étaient un signe de bénédiction divine. Aussi, le riche vivait chaque jour que pour lui-même. Dans le fond, il consacrait sa fortune à satisfaire son appétit, ses plaisirs de la vie quotidienne, et sans jamais se soucier des enseignements de Dieu. Dans Marc 8, 36, il est écrit: « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il fait la perte de son âme? » Oui, avec son argent, il a pu s'acheter plusieurs choses. Il aurait peut-être pu gagner une bonne partie du monde, au moins d'où il habitait. Mais que sert à un homme de gagner le monde entier s'il fait la perte de son âme? Qu'en est-il du pauvre Lazare? Que peut-on dire de son ascension au ciel? C'est sûr qu'un homme riche n'a pas été mis en enfer à cause de son argent. Il y a des personnages de la biblique, Salomon était riche, par exemple. Il n'a pas été en enfer. Et Lazare n'est pas allé au paradis à cause de sa pauvreté non plus. Dans la parabole, on peut faire ressortir des points sur la conduite de Lazare. Malgré sa pauvreté extrême, Lazare n'a jamais porté de critique envers Dieu. dans cette parabole. Il y aurait eu de quoi se plaindre. Hein? Et souvent, on peut être dans des situations beaucoup moins graves que Lazare, puis même nous, moi le premier, on va se plaindre. Et, ou même, blâmer Dieu pour notre malheur. Malgré ces circonstances, pas une seule plainte n'est sortie de la bouche de Lazare. Aucun signe d'amertume. Lazare accepte son sort sans se lamenter. On voit aussi que Lazare, à la lecture de cette parabole, est un fidèle serviteur de Dieu, puisqu'il se retrouva dans le sein d'Abraham. Quel honneur et quel bonheur pour Lazare d'être aussi près de l'un des personnages les plus connus de l'histoire de la Bible. Quel contraste avec sa misère profonde sur terre. Un autre indice que Lazare était un homme pieux, c'est par son nom. C'est la seule parabole que Jésus va donner un nom à un personnage. Dans aucune autre parabole, Jésus va nommer une personne. Et Lazare est l'abréviation d'Éléazar, qui signifie « Dieu est mon secours ». Donc le Seigneur voulait vraisemblablement indiquer par ce nom que Lazare cherchait et trouvait son secours en Dieu. Donc le réveil fut brutal pour l'homme riche, qui se retrouva dans les tourments de l'enfer. Et quand il aperçoit dans Luc 16, 23, Abraham et Lazare au loin, il lui supplie d'envoyer Lazare pour humecter son doigt et pour que sa langue soit délectée. Selon les commentaires que j'ai lus, entre autres de John MacArthur, rien ne suggère dans la Bible que ceux qui sont en enfer peuvent apercevoir le ciel et dialoguer avec ceux qui s'y trouvent. Comme ici. Donc, cela renforce vraiment l'idée que cette parabole racontée par notre Seigneur Jésus-Christ est une histoire utilisée pour renseigner une vérité spirituelle et non un récit qui est basé sur des faits réels. Aussi, quand l'homme riche appelle Abraham et l'implore d'envoyer Lazare pour qu'il lui apporte un peu d'eau pour rafraîchir sa langue, parce qu'il souffre le supplice dans cette flamme, au verset 24, il y a un petit peu un brin d'arrogance dans sa requête. On voit, de la part du mauvais riche, aucun signe de repentance dans son attitude, aucune reconnaissance de la souveraineté de Dieu, son rejet de Christ ou de l'enseignement des prophètes de la loi, de son vivant va se poursuivre dans le séjour des morts. La rébellion de son cœur va se poursuivre en enfer. La réponse d'Abraham ne laisse aucun espoir à l'homme riche. « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu souffres. » Donc, un autre contraste qu'on peut voir dans cette parabole, c'est que de l'autre côté de la tombe, les rôles sont inversés. Le riche a eu pendant sa vie des biens en abondance, et maintenant il est dans la souffrance et le dénuement le plus total. Tandis que Lazare, qui supportait tous les maux avec sa pauvreté extrême, obtient maintenant la consolation et la paix. Cette réplique nous rappelle la déclaration de Jésus en Luc 6:20 et 6:24 qui dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des dieux est à vous. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. » Le riche qui a vécu dans l'abondance et le plaisir a reçu sa consolation durant sa vie sur la terre. Mais tout ce bien-être s'est achevé à sa mort. Dorénavant, il ne peut plus s'attendre à recevoir qu'à quoi que ce soit. Un autre élément qui renforce le commentaire de MacArthur qu'il n'y a pas de lien entre le ciel et l'enfer, c'est qu'au verset 26, il dit « Ce n'est pas tout. Entre nous et vous, un grand abîme a été fixé. Et entre ces deux lieux, il n'y a aucun passage, aucun pont qui aurait permis un lien entre la demeure des perdus et celle des sauvés. » Donc, quand le riche a compris ça, Il a pensé à ses frères, à sa famille. Donc, il a arrêté de faire une demande pour lui-même. Et il implore alors Abraham d'envoyer Lazare d'entre les morts devant ses frères pour que les avertir de leur sort s'ils continuent à rejeter l'enseignement de Dieu. Et Abraham répondit simplement que ses frères, étant juifs, avaient Moïse et les prophètes, selon les écrits de l'Ancien Testament, et que cela les suffisait pour les mettre en garde. Ils n'avaient qu'à les écouter. Et le riche lui-même, malgré qu'il avait à sa disposition tout l'enseignement de l'Ancien Testament, ce privilège ne change rien au fait qu'il était rebelle et qu'il se retrouve maintenant en enfer. Mais l'homme riche s'entête. Il revient à la charge. Puis il dit, s'il voit Lazare revenant du royaume des morts, ça va être suffisant pour qu'il se repentisse. Dans le fond, le riche était persuadé que si quelqu'un ressusciterait d'entre les morts afin de les avertir, tout serait différent pour eux. Ils prendraient cela au sérieux. Dans le fond, les Juifs ont fait la même demande à Jésus, de donner des signes afin qu'ils puissent croire. Que d'illusion! Jésus avait déjà ressuscité un homme des morts, qui s'appelait Lazare aussi. Et Jésus lui-même est ressuscité d'entre les morts, 3 jours après sa crucifixion. Est-ce que les Juifs ont cru? Une minorité, uniquement. Mais la majorité, non, ils n'ont pas cru. Et malgré ces miracles éclatants, les Juifs ont refusé toujours de croire. Combien de ceux qui connaissent les Écritures aujourd'hui continuent à les ignorer? Et Abraham termine la parabole en disant, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Abraham rejette ici l'argument du riche. Si les frères n'ont pas le désir de prêter attention à la parole de Dieu, ils ne croiraient pas même si quelqu'un d'entre les morts allait vers eux. Le vrai problème du riche et de ses frères, c'est la rébellion du cœur. Même les preuves les plus évidentes ne persuaderont jamais l'esprit, encore moins le cœur, d'être disposé à s'humilier devant Dieu et à croire. Pour conclure, on va regarder les principales applications, ce que l'heure avance, de ces 3 paraboles pour nous aujourd'hui. Et je vais les regarder sous 2 angles. Premièrement, pour nous, les croyants, qui est représenté par le blé, le bon poisson et le pauvre Lazare. Je vois 2 applications principales de ces 3 paraboles. La première application pour nous, les croyants, c'est qu'il est essentiel de croître et d'acquérir la maturité. Oui, c'est un fait qu'il y a une coexistence du bien et du mal. Et cette coexistence du bien et du mal sert à nous éprouver, nous les enfants de Dieu. C'est une cohabitation forcée. À moins de s'exiler dans le grand nord. Non, on est avec le monde. Donc, et dans le monde, il y a le mal. Donc oui, on ne peut pas se sauver, s'exiler du mal. Donc on doit apprendre à vivre avec le mal. Et cette présence du mal éprouve notre foi. Celle-ci nous apprend à nous enraciner davantage dans le sol afin qu'on puisse puiser les ressources spirituelles de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il met à notre disposition, particulièrement dans les épreuves. Donc, la maturité spirituelle va s'acquérir progressivement, particulièrement lorsqu'on est en contact avec ceux qui pratiquent l'iniquité. Une vie sainte aussi est l'expression visible par laquelle on vous reconnaîtra comme étant un authentique fils du royaume de Dieu. En Romains 6, 22, « Étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La différence entre l'ivraie et le blé n'est devenue perceptible qu'au moment de leur maturité, quand leurs fruits ont fait apparition. Donc, nous aussi, il nous appartient de rester fidèles à notre engagement envers le Seigneur Jésus-Christ et de rester du bon grain. La deuxième application pour nous, les croyants, c'est l'importance d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle dans ce monde. La nouvelle du salut donné gratuitement, que l'on a reçu, qui nous a fait passer de l'ivraie au blé, du fils du malin au fils du royaume. On doit évangéliser, annoncer cette bonne nouvelle partout autour de nous, à nos frères, nos sœurs, nos familles, au travail, en vacances, afin que les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ soient rapportées, afin d'éviter que nos proches, nos amis, nos collègues de travail n'aillent pas aussi dans ce lieu de tourment où il y a des pleurs et des grinchements de dents. On voit aussi dans la parabole du riche et du pauvre Lazare que le riche n'a pas été touché par la loi et les prophètes. Pourtant, c'est le seul chemin qui mène à la foi. Certains vont fermer leurs oreilles à la voix de Dieu dans les Écritures, mais d'autres écouteront. Et c'est un peu la devise de notre Église, « Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville », selon Actes 18, 10. Oui, il y a un peuple nombreux à Saint-Léonard. Et ceux qui accepteront de croire à la vérité et à la justice se repentiront. Ils passeront de la mort à la vie. Des fils du malin deviendront des fils du royaume. Donc, c'est important donc pour nous de croître en maturité, de se sanctifier, mais aussi d'annoncer cette bonne nouvelle aux perdus. Pour les non-croyants, dans le fond, dans les paraboles, qui est représentée par l'ivraie, les mauvais poissons et le mauvais riche, je vois aussi deux grandes applications. La première application consiste au fait que les choix que ces personnes vont faire aujourd'hui vont conditionner leur destinée éternelle. Une fois la mort intervenue, rien ne pourra changer. Le sort de chacun aura été décidé pour l'éternité. Il n'y a que deux issues possibles le jour du jugement, le ciel ou l'enfer. Dans le fond, ces deux paraboles refutent l'existence d'un purgatoire. Il n'y a pas de troisième lieu. Il n'y a pas d'état intermédiaire avant le jugement final. Donc, les non-croyants, seulement deux options. Vivre avec Dieu ou vivre sans Dieu. Si on dit, je ne veux pas de l'autorité de Dieu, je préfère comme un peu le riche, je préfère vivre comme bon me semble, nous rejetons Dieu et nous choisissons l'enfer. En effet, l'enfer est l'aboutissement de toutes ces fois où nous disons à Dieu, ces personnes disent à Dieu, va-t'en, je ne veux pas de toi. Et un jour, Dieu va dire, OK, parfait, je vais t'exaucer. Tu ne seras pas avec moi au paradis. L'importance, dans le fond, que leur choix que nous faisons aujourd'hui conditionne la destinée éternelle. Pour ceux qui sont non-croyants, une deuxième application, c'est vraiment d'accepter Christ dans ta vie aujourd'hui, pas demain. En effet, la Bible nous dit que pour être sauvé, il faut lever nos yeux à Christ. Je prends l'expression de la parabole. Le salut ne vient que de Dieu seul. Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient point de vous. C'est un don de Dieu, dans Éphésiens 2, 8. Et dans Tite 3, 5, Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Oui, on ne peut rien faire pour être sauvé par nous-mêmes. Il n'y a rien de valable en nous qui puisse nous valoir le salut, qu'on aille au ciel. Mais la première condition pour aller au ciel, pour être sauvé, c'est de lever nos yeux vers Christ, plus que nos efforts. C'est à Dieu seul qu'il faut regarder pour être sauvé et de lui implorer, « Seigneur, aie pitié du coupable que je suis. » Un peu comme le brigand qui a été crucifié à côté du Seigneur, le bon larron qu'on dit. Donc, on a ici un homme qui a gâché sa vie. On n'a pas les détails. mais probablement à deux doigts d'un enfer qu'il avait mérité. Il s'est tourné vers le seul qui pouvait le sauver, le Saint-Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, a donné sa vie en rançon pour mes péchés, pour vos péchés. Il a porté ses crimes à la croix. Son sang seul peut effacer tous nos péchés, car la Bible dit, dans 1 Jean 1,7, « Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » Le brigand s'est tourné vers Jésus, il lui a lancé un SOS. Sa rébellion a pris fin à la croix. Il lui a dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Dans Luc 23, 42. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui a le pouvoir, tout pouvoir, qui est le juge des juges, a acquitté, comme on pourrait dire dans notre langage juridique, le bon larron en disant, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Dans Luc 23, 43. Quelle assurance! Cet homme est mort ce jour-là, mais selon la parole du Seigneur, nous sommes certains qu'il est avec lui au ciel, au paradis. Il faut donc faire la paix avec Dieu dès aujourd'hui, car personne ne sait quand la mort viendra le chercher. Dans 2 Corinthiens 6, 2, il est marqué « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Prions. Oui, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cet enseignement sur le ciel et l'enfer. Oui, c'est une vérité que tu nous enseignes à travers ces trois paraboles qui a deux seules issues à notre mort. Le ciel et l'enfer. Il n'y en a pas d'autre. Tu nous avertis. Merci, Seigneur, de cet avertissement. Et oui, Seigneur, qu'on puisse annoncer cet avertissement autour de nous. Et oui, Seigneur, on n'aimerait que personne aille en enfer, surtout nos proches. D'où la tâche, cette compassion qu'on doit avoir pour les âmes perdues, d'annoncer la bonne nouvelle. Mais leur choix leur revient. C'est toi seul qui sauves, ce n'est pas nous, les messagers. Mais Seigneur, on te demande vraiment qu'on puisse vraiment appliquer ces vérités spirituelles que tu nous enseignes dans ces paraboles dans nos vies. Et tout cela au beau nom de ton Fils Jésus. Amen.